France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Il y a quelques mois, face à un médecin, je me suis trompée d'une année, incapable de me souvenir de mon âge exact. Il y a 2 ans, je me suis entendue dire « Oh pétard, mon corps me lâche ». Alors j'ai dit un autre mot que pétard, mais je préfère rester polie à l'antenne. La crise de la cinquantaine, je l'ai laissée aux autres, après avoir fait celle de la trentaine et celle de la quarantaine. Dans ma tête, j'ai toujours 12 ans. Est-ce que je me sens vieille? Non. Est-ce que je vieillis? Assurément, depuis le jour de ma naissance. Est-ce que j'ai peur du temps qui passe? Pas franchement, à condition que le temps me permette d'avoir un corps et un cerveau en bon ordre de marche, ou à peu près. Est-ce que je suis joyeuse? Toujours. Et vous? À quel âge avez-vous eu l'impression de vieillir? Peut-on, selon vous, vieillir joyeusement? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France, et vous pouvez également nous laisser un message sur WhatsApp. Nous sommes le mercredi 23 juillet, vous écoutez France Inter, Grand Bien Vous Fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Eva Rock.
J'ai donner un grand espace dans mon bouquin au problème du vieillissement de l'actrice. Je pense que j'ai répondu à des questions que personne n'aurait jamais osé me poser, par délicatesse, par gentillesse. Parce que c'est vrai, les intervieweurs, ils n'osent pas vous dire « Mais dites donc, madame, ça vous fait quel âge maintenant ? Et puis, vous êtes plus que vous avez été. » Oui. Alors là, je me suis expliqué là-dessus. Et des rapports de l'âge avec les extraordinaires joies de qu'on puise justement à plus être la même pour jouer des choses formidablement intéressantes. Et aussi, pour être tout à fait honnête, tous les alibis que ça vous donne pour ne pas avoir été celle qui a eu assez de discipline pour pas grossir, assez de discipline pour ou assez de sous pour aller se faire arranger ou je sais pas. C'est aussi des alibis pour moi, ça je n'en disconviens pas.
La voix de Simone Signoret, c'était en avril 1980. Elle évoque un certain nombre de questions que nous allons évoquer ce matin avec nos invités. Bonjour Alexa Soyeux.
Bonjour.
Vous êtes autrice du livre « Passer l'âge, la crise de la quarantaine entre mythe et réalité ». C'est aux éditions Hors d'atteinte et vous êtes également la créatrice du podcast « Présage ». Bonjour Fiona Schmitt.
Bonjour.
Journaliste, essayiste, vous signez « Vieille peau, les femmes, leur corps, leur âge » et c'est aux éditions Bellefond. Et avec nous également notre maître à toutes et à tous, bonjour Georges Vigal.
Bonjour.
J'en bafouille, vous voyez.
Je ne sais pas si ça suffit ce que vous venez de dire.
Non, mais attendez, là, ça, ce n'est que le début de l'émission. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce studio, Georges, historien. Vous êtes directeur des études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié notamment Le corps redressé, Le propre et le sale, Histoire de la beauté, Histoire de la fatigue ou encore Une histoire des lointains entre réel et imaginaire. L'ouvrage vient de sortir en poche chez oui. Pocket il y a quelques jours. Alors à tous les trois, ma première question, ça vous fait quel âge maintenant, Fiona Schmitt?
J'ai 43 ans et demi. Je vais avoir 44 ans le 23 novembre.
Elle est que ça soyeux. Ah ouais.
Souhaiterais.
J'ai bientôt 40, j'ai 39 et demi.
39 ouais. et demi, Georges Vigarello.
Écoutez, moi je ne m'attendais pas à cette question, mais ce qui vient d'être dit me renvoie au double des chiffres que je viens d'entendre.
Vous ne voulez pas nous dire exactement?
Vous devinez.
Oui, à peu près. Je ne sais pas très bien compter, c'est pour ça. Imaginons que je possède une baguette magique avec laquelle je peux vous attribuer l'âge que vous souhaiteriez avoir, là. Tout de suite, en un instant. Vous optez pour quel âge, Georges Vigarello?
À la moitié de ce que j'ai.
La moitié de ce que vous avez?
Oui, absolument.
Autour de 20 ans, quoi, c'est ça?
Ah, voilà, ouais, vous avez parfaitement interprété.
Et vous, Fiona Schmitt?
Alors moi, je suis de mieux en mieux dans mon âge, je dois dire. Sauf certains matins, qui sont plus compliqués que d'autres face au miroir. Mais intérieurement, je cohabite de mieux en mieux avec la femme que je suis aujourd'hui. Donc,
vous gardez votre âge?
Oui, je suis bien.
Et vous, Alexia Soyeux?
Moi, je vais dire un peu comme Fiona. Enfin, tout comme Fiona, en fait. Je pense que l'âge apporte une forme de confiance ou de reprise sur l'estime de soi. Et je suis aussi contente des choix de vie que j'ai fait récemment, donc je garderai mon âge.
On va garder cet optimisme, si vous voulez bien, jusqu'à la fin de cette émission. Fiona Schmitt, ce sujet du vieillissement, il vous intéresse depuis longtemps et à plusieurs titres, en fait, c'est ça?
Alors, il m'intéresse depuis que je sais lire l'heure, à peu près. J'ai toujours été obsédée par mon âge et par le temps qui passe. Et je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, en tant que fille aînée, j'ai été d'une fratrie, j'ai été responsabilisée extrêmement tôt, comme beaucoup de jeunes filles dans les années 80 et même aujourd'hui. J'ai eu une puberté extrêmement précoce puisque j'ai eu mes règles à 10 ans, donc j'ai été mon corps a changé brutalement alors que j'étais encore enfant, et tout d'un coup le rapport des adultes à mon corps, à moi, à mon individu, a changé. Donc j'ai été sexualisée très jeune, responsabilisée extrêmement jeune alors que j'étais encore enfant. Donc ça change beaucoup la perception de soi en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. C'est-à-dire que le fait d'être traité comme un adulte quand on est soi-même encore enfant, ça perturbe un petit peu les repères. Et puis j'ai été élevée dans les années 90, j'ai été ado dans les années 90, hein, j'ai été biberonnée à des magazines comme 20 ans et Jeune et Jolie, hein, donc qui étaient très clairs. Et puis ceci dit, j'ai quand même attendu le cap symbolique des 40 ans pour m'attaquer à déconstruire les mécanismes de l'agisme, justement, oui, dont on va parler. Et parce que aussi j'ai expérimenté ce que la vieillesse et le vieillissement faisaient aux autres, puisque mon père, au moment où j'ai eu 40 ans, mon père a eu un grave accident qui l'a laissé dépendant, complètement dépendant. Et donc j'ai vécu dans ma chair, dans mon intimité, le fait que ce que la vieillesse et la vulnérabilité liée à la vieillesse fait aux autres, et notamment aux femmes, puisque la vieillesse, c'est vraiment un monde de femmes, puisque la plupart, l'écrasante majorité des vieux sont des vieilles.
Et statistiquement, hein, c'est ça.
Statistiquement. Ouais. Et les personnes qui s'en occupent, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, sont dans l'écrasante majorité, là encore,
des femmes.
Ouais. Donc la vieillesse, le vieillissement de la population est une question de genre aussi, dont on ne parle pas assez.
On va évidemment y revenir tout au long de cette émission sur cette question du genre dans le vieillissement. Selon vous, on doit parler de vieillissement et de vieillesse au pluriel ? C'est-à-dire que c'est à chacun sa façon de concevoir cette période de la vie ?
Alors, il ne s'agit surtout pas que d'une volonté, hein, surtout. Et puis, oui, effectivement, les vieillesses au pluriel, puisque que parler des retraités ou des vieux comme étant des privilégiés, c'est ce qu'on dit aussi des jeunes, hein, par ailleurs. Hein.
Tout à fait.
On va y revenir, je crois. C'est une façon de les déshumaniser. Et puis, ça occulte les différences de genre, notamment au sein de la catégorie des personnes âgées. Or, on sait que le vieillissement aggrave les inégalités, notamment sur le plan du genre et notamment sur le plan économique. Hein, donc, je pense que tout le monde sait que le différentiel des pensions de retraite est de 40%
entre les hommes et les femmes.
Voilà, exactement. Ouais. Et on ne vieillit pas, évidemment, de la même façon selon les conditions de vie dans lesquelles on a vécu, selon qu'on soit blanc ou pas, selon qu'on soit une femme ou un homme, selon qu'on soit queer ou hétéro. Enfin bref, la vieillesse est en fait le miroir de toutes les inégalités qui traversent la société.
Ça va aussi nous permettre de continuer l'émission, ces thématiques-là. Mmh. Alexia Soyeux, Fiona vient de prononcer le terme d'agisme. Est-ce que vous pourriez faire un petit travail de définition et nous définir ce terme d'agisme ?
D'accord. L'agisme, c'est un ensemble de... c'est un principe de hiérarchisation, en fait, des individus, qui fait qu'on a un ensemble de stéréotypes et qu'on discrimine les personnes qui sont perçues comme vieux ou vieilles. Et c'est associé aussi à des blagues ou une façon de diminuer ces personnes dans l'espace médiatique, dans l'espace des représentations et puis dans la vie courante.
Vous êtes intéressée à la quarantaine et à cet âge symbolique des 40 ans. Pourquoi, selon vous, 40 ans sera un cap plus symbolique que d'autres ?
Alors, j'ai commencé à m'y intéresser un peu en avance de phase, parce que je cherchais à savoir si la crise de la quarantaine était un vrai truc. Est-ce que ça existe vraiment ? Et puis, de quand ça date, en fait, cette notion ? Et j'ai été très surprise, en faisant mes premières recherches, de trouver des articles de type « Comment faire pour que votre mari ne vous quitte pas pour sa secrétaire ?» Et je me disais, on est quand même dans les années 2020, ça me semblait assez étonnant d'en être encore là. Donc j'ai un peu creusé le sujet et j'ai découvert que la crise de la quarantaine, il y n'y a pas de réalité vraiment universelle. C'est très dépendant de nos sociétés occidentales, entre guillemets, et son origine date du milieu du siècle, du XXe siècle. Et est-ce que je raconte
l'histoire? Ah oui, je veux bien, parce que c'est extrêmement intéressant la façon dont ça a basculé, en fait.
Donc, la crise de la quarantaine, c'est une notion qui a été vraiment mise sur le devant de la scène dans les années 70 par une autrice journaliste féministe qui s'appelait Gaëlle Chi, qui était une journaliste féministe de la Seconde Vague assez connue, et elle a écrit un livre qui s'appelle Passage, dans lequel elle explore les crises un peu habituelles qui jalonnent la vie adulte à cette période-là, et elle développe en particulier la crise de la quarantaine. Elle se fonde sur des travaux en sociologie, en psychologie. C'est évidemment pas une notion qui est arrivée un beau jour comme ça. C'était déjà dans l'air du temps. Mais elle en faisait une notion féministe, au sens où elle disait que pour les femmes, dans la période du milieu de la vie, de la midlife, c'était l'occasion pour elles de s'émanciper, de se détacher de la vie conjugale, maritale, la vie de mère.
Et notamment les enfants qui partent de la maison, etc.
Exactement.
Quoi.
Et donc, elle en faisait l'occasion d'une une possible réinvention, et voilà, que les femmes puissent vivre en tant que vrai sujet, individu. Ouais. Voilà. Et ça s'inscrit aussi dans une période où on est dans une société qui s'est beaucoup industrialisée, où on a eu de l'énergie abondante et pas chère pour faire des villes, pour construire des banlieues, il y avait beaucoup plus de voitures. Les modes de vie se sont transformés profondément dans l'après-guerre, en fait. Et la classe moyenne blanche, plutôt, avait des vies beaucoup plus standardisées qu'avant, avec la vie de bureau, la voiture, l'électroménager, etc. C'était aussi un moment où on vivait plus longtemps, progrès de la médecine,
etc. Évidemment.
Et donc, c'est un ensemble de facteurs qui fait que les vies étaient assez différentes, et qu'on avait aussi du temps pour se demander est-ce que, maintenant que j'ai coché toutes les cases, maintenant que j'ai montré que je suis un adulte conforme, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et donc, c'est à ce moment-là que la crise de la quarantaine a émergé. Donc, c'est un ensemble de facteurs, et ça raconte aussi l'histoire de nos sociétés modernes.
Oui, alors je me retourne vers l'historien, justement, Georges Vigarello. Est-ce que cette notion de vieillissement, elle est récente dans notre histoire?
Non, elle est absolument pas récente. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'elle est paradoxale. Parce que d'un côté, dans la tradition, vous avez, regardez les fables de La Fontaine, vous avez évidemment l'image d'un vieillard qui est sage, qui a une sorte de possibilité de réflexion sur les choses, auxquelles on peut se référer, etc. Et d'un autre côté, on oublie, il y a des textes terribles qui manifestent un mépris absolu à l'égard du vieux, qui ne marche plus de façon correcte, qui est débordé par les humeurs, qui crache. Dans le dictionnaire de Richelet, qui est un dictionnaire de 1688, vous avez l'indication sur laquelle le vieillard, il est en fait égoïste, grincheux, solitaire. Donc on voit bien que c'est très ambivalent. Et du coup, la notion d'agisme me paraît vraiment intéressante. Parce que dans la tradition, on pourrait dire qu'il y a de l'agisme. Mais la façon dont, ça a été très bien dit tout à l'heure, la façon dont il est perçu aujourd'hui, cet âge, est devenu beaucoup plus sensible. Et je pense que les individus supportent de moins en moins le fait d'être livrés à des contraintes, se retrouver harcelé, etc. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est à la fois un gain, vous voyez, gain dans l'autonomie et dans la manière de résister à la façon dont on est ostracisé. Et en même temps, c'est la manière de montrer à quel point cette ostracisation est pénible.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Vous avez le droit de vieillir à condition de rester jeune. Ce raisonnement-là, il ne tient pas. Non, je ne peux pas être vieux et jeune. Ou alors, ça veut dire que jeune est devenu synonyme de en pleine forme et vieux synonyme de rien ne va bien. Non, ce n'est pas l'âge qui peut servir de critère pour évaluer ce genre de choses, évidemment.
Le formidable sociologue Michel Billet, que nous avions reçu en 2022 dans cette émission, nous parlons âge, vieillissement et joyeuseté avec nos invités, l'historien Georges Vigarello et les autrices Fiona Schmitt et Alexia Soyeux. Georges Vigarello voulait réagir au propos de Michel Billet qu'on vient d'entendre. L'âge biologique ne peut pas être un critère.
Ben, c'est évident.
Ouais.
Cela dit, moi je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a des différences qui sont tout aussi évidentes entre les hommes et les femmes, entre des milieux sociaux, etc. Mais ce qui me frappe dans nos sociétés, alors je peux me tromper, ce qui me frappe c'est que ce sont des sociétés qui pour mille raisons, et entre autres pour la consommation et bien d'autres raisons, sont des sociétés qui valorisent le présent.
Ouais.
Et donc les individus ont le sentiment qu'il faut absolument qu'ils restent dans le présent. Et à ce moment-là, ils dénient dans une certaine mesure le déroulement du temps, vous voyez. Ça me paraît très fort.
Ouais.
Et je pense que ça agit sur la manière même dont vous percevez votre âge.
On est bien d'accord. Alexia Soyeux, vous savez, on entend souvent cette phrase 50 ans, c'est le nouveau 40 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de formule?
Je pense qu'on essaye tout le temps de repousser un peu les échéances, mais en réalité, ça traduit toujours la même chose, là, que pour reprendre le titre de l'émission aussi, c'est que vieillir, c'est toujours... Enfin, est-ce que ça peut être joyeux? Oui, certainement, mais à condition de repenser ce qu'on signifie par vieillir et ce qu'on signifie aussi par joyeux. En fait, qu'est-ce qui nous donne de la joie? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même un peu tiraillé entre une idéologie du bien vieillir avec des guillemets qui est en fait une injonction à rester jeune,
comme on l'entendait dans Michel Billet, tout à fait,
et qui n'est en réalité accessible qu'au prix d'un travail très coûteux en termes de, voilà, de psychologie
et économique,
dire, et qui n'est accessible qu'à une très petite partie de la population. Et de l'autre côté, on a, comme on a dit, une pathologisation du vieillissement qui est vue, en fait, la vie en fait, est vue comme un problème à résoudre.
Oui.
Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de biohacking et de biotechnologie pour résoudre la mort, en fait.
Ouais. Fiona Schmidt, vous vouliez réagir à ce que vient de dire
Alexia? Oui, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué en tant qu'ex-journaliste de la presse féminine, 50 et le nouveau 40, etc. Et en fait, ça ne fait que déplacer le pic à partir duquel les femmes sont réputées dévaler la pente de l'existence jusqu'à la mort. Et en fait, ça fait que déplacer la pente. Alors que l'enjeu, c'est vraiment de supprimer cette pente et de supprimer l'idée que les femmes connaîtraient un âge d'or par rapport à un âge de plomb, forcément.
Moi, j'ai été très marquée par vos mots, Fiona. Vous écrivez « J'ai déjà passé 2/3 de mon existence à faire attention à mon corps, afin qu'il reste mince pour encombrer le moins possible l'espace public et ferme l'époque ayant horreur du mou. » J'étais stupéfaite par cette notion d'espace public aussi qui rentrait dans votre réflexion.
Oui.
Et vous poursuivez, en fait, les hommes ne perdent rien en vieillissant. Ça veut dire que les tempes grises des hommes ne sont pas tout à fait les tempes grises des femmes.
Non, alors pas du tout. Et puis l'expérience est quelque chose qui est valorisé pour les hommes. Enfin, alors que l'expérience chez une femme n'est pas valorisée puisqu'elle perd, en fait. Moi, j'ai appris j'ai intégré très rapidement dans Jeune et Jolie, 20 ans, etc., que en fait, vieillir était une menace pour les femmes. D'ailleurs, on est confronté à des publicités où on parle de défense, de barrière anti-âge. Enfin, on a quand même un vocabulaire extrêmement guerrier, extrêmement militaire. Donc, on nous présente depuis toujours l'âge, l'avancée en âge comme un problème qu'il faut résoudre, comme le disait Alexia, et puis surtout qui va nous retirer notre essence, notre quelque chose qui manifestement est moins problématique pour un homme quand il vieillit.
Oui, Alexia, pour les femmes, la préménopause et la ménopause sont vraiment les étapes qui marquent le corps et le regard qu'on a sur les femmes dans la société, on est d'accord. On a l'impression qu'il y a une date de péremption, hein.
Il y a une date de péremption, il y a, les femmes sont des yaourts. Donc à 40 ans, comme le dit la sociologue Cécile Charlap, la ménopause sociale fait que les femmes qui, avant 40 ans, étaient censées être obligées de procréer, là, sont sommées de ne plus le faire du tout. Et 40 ans, c'est un peu un seuil symbolique à partir duquel les femmes, effectivement, perdre de leur valeur, de leur capital, et elles ne sont plus uniquement que des corps à séduire, mais elles basculent progressivement dans une forme de relégation sociale.
Oui, je suis en train de penser en fait à ce que vous venez de dire, au fait que finalement la femme devient quasiment inutile au moment où elle ne peut plus procréer. Et ça renvoie aussi à l'image de la vieillesse qu'on a, où quand on dit la personne est en retraite et inactive, on a l'impression aussi qu'il y a ce sentiment d'inutilité de la personne trop âgée. On est d'accord?
Oui, c'est une question de
à quoi on sert.
À quoi on sert dans cette société.
Ouais.
Mais en même temps, vous avez quand même des... moi, ça me frappe beaucoup. Vous avez quand même des comportements de résistance à ce genre de problème.
C'est ce que j'allais vous demander.
Il y a une grande différence entre le passé, à la limite pas très très lointain, et la situation d'aujourd'hui. Je pense à une phrase d'encyclopédie qui m'a toujours marqué. C'est « il est un temps où il faut savoir exister, paraître ». Et il est un temps où il faut savoir disparaître. Autrement dit, à partir de la retraite, accepter de ne plus être là. Vous voyez, il y a une sorte d'injonction. Alors qu'aujourd'hui, cette injonction, elle est beaucoup plus compliquée. Il y a une manière de résister à cela. Et je pense que ça traduit les sociétés individualistes, ça se traduit les sociétés où les individus s'affirment. Et les livres, d'ailleurs, qui à la fois sont des livres critiques, sont en même temps des livres qui affirment quelque chose qui est de l'ordre de la personnalité et de la résistance.
Vous parlez des livres d'Alexia et de Fiona.
Voilà,
vous avez
beau,
lu, que vous avez lu avec précision. Vous vouliez réagir, Alexia?
Oui, je voulais dire, pour les femmes, même si évidemment c'est pas le jour des 40 ans qu'on bascule dans un autre monde, voilà.
C'est le sas avant la vieillesse.
Oui, c'est
50 ans, la ménopause, c'est terminé.
Mais je trouvais que la période de la quarantaine, c'était quand même, voilà, on entre dans la quarantaine à 39 ans, on est entre guillemets encore jeune, et à 49 ans, on est presque déjà vieille, en tout cas dans le regard dominant. Et ce qu'on propose aux femmes pour être un remède à cette péremption, c'est d'essayer d'atteindre à n'importe quel prix des représentations qui sont inatteignables en fait et qui sont même pas souhaitables, parce que ça veut dire que en fait on essaye de lutter contre la vie.
Oui.
Et c'est un travail qui est encore une fois extrêmement coûteux. L'industrie de la beauté, c'est un marché qui est colossal.
Oui.
L'industrie de la beauté, entre
les insécurités des femmes, c'est quand même le meilleur marché. Enfin, c'est un secteur économique florissant
et la ménopause avec. Et peut-être qu'on y reviendra après, mais ce qui est, je trouve, intéressant dans les derniers mois, la dernière année, où on parle beaucoup de ménopause qui ne devrait plus être un tabou, etc. Donc c'est vrai qu'on en parle quand même dans les médias, etc. Mais j'ai l'impression que derrière cette déstigmatisation de la ménopause, c'est pour remettre de nouvelles injonctions rester femme. Même dans la ménopause, réussir sa ménopause, et ça va avec, bien sûr, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, ça va avec plein de produits et de services associés.
Oui, et qui sont très chers par ailleurs. Alexia Soyeux, moi j'ai été... votre honnêteté dans le livre m'a réjouie. Vous dites, j'aimerais pouvoir dire que j'ai aucun problème avec le fait de vieillir, mais ce serait mentir. Et en fait, vous nous racontez que vous avez deux petites voix dans votre tête qui tiennent des propos, alors pas contradictoires, mais très différents en tout cas. C'est quoi ces petites voix ?
Oui, c'est d'un côté, en tant que femme blanche, privilégiée, mais aussi féministe, j'ai deux voix dans ma tête. Je pense que Fiona a les mêmes voix.
Moi, j'en ai 40 voix dans ma tête.
un côté de moi qui me dit vieillir, ça fait partie de la vie. Il faut essayer de desserrer l'étau des normes qui nous font du mal, en fait. Et j'ai pas envie de passer... le reste de ma vie à me préoccuper de à quoi je ressemble. J'ai pas envie que l'apparence des gens, pas seulement la mienne, soit liée à des qualités morales, en fait. Et une autre voix qui me dit que, je vieillis et c'est pénible.
Oui.
Y a une fatigue, il y a des rides, il y a des cheveux blancs, et que l'apparence, on le sait, aussi liée à une certaine façon d'être au monde qui apporte un capital, des privilèges dans le travail, dans les relations, etc.
Oui, parce que vous dites, la femme disparaît socialement.
Oui.
Hein, c'est ça, Fiona Schmidt.
C'est pas qu'une question comme on me l'a beaucoup dit quand je parlais de mon projet d'écrire un livre sur le vieillissement à 40 ans. On m'a dit ça paraît être une question de bonne femme, donc par essence futile. Alors que le fait de vieillir, donc de présenter des marques du vieillissement physique entraîne des conséquences pour les femmes, des conséquences économiques, c'est-à-dire que ça entraîne une sanction sociale nette. Et clair. Par exemple, rien que, j'en ai des tonnes des statistiques mais on est perçu en tant que femme plus âgée, donc senior déjà 7 ans avant les hommes sur le marché du travail. Ce qui s'ajoute quand même à tout un tas de barrières dont on ne manque pas sur le parcours professionnel, qui ont des conséquences sur notre niveau de vie, sur les conditions matérielles,
exactement. Tout à fait.
Voilà.
Et quand on, pardon, juste.
Oui, avec ça soyeux.
je réagis. quand on dit aussi qu'on veut revaloriser voilà, l'avancée en âge, les cheveux blancs, etc. Mmh. C'est quand même pas du tout la même chose d'avoir, d'arborer des cheveux blancs si on est une femme aisée, mince, etc., que si on est une femme pauvre, maman solo, par
oui.
exemple.
Voilà, ah bah aussi, c'est, voilà. Donc, entre être artiste dans le 10e arrondissement de Paris et être caissière en banlieue, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes privilèges en termes de...
C'est ce qu'on disait, oui, voilà, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est voilà. qu'il y a à la fois le sexisme et puis toutes les autres discriminations etc. sociales qui s'ajoutent.
On laisse la parole à Jean.
Ça entraîne, ce qui me paraît très intéressant, c'est une sorte d'injonction contradictoire. Parce que d'un côté, je reviens à ce que je disais tout à l'heure concernant le présent. Bon, ben, le temps, il ne faut pas l'accepter comme tel, il faut rester dans le présent, il faut rester actif, etc. Et d'un autre côté, vous avez évidemment le rejet des seniors. Ça me paraît très fort, cela. Rejet d'ailleurs différencié selon les femmes et selon les hommes, mais rejet très fort. Vous voyez, c'est une injonction contradictoire. C'est-à-dire, finalement, l'âge ne compte pas. Je pense à ce livre de Eden, j'ai oublié son nom, Hale et Adon.
Oui.
La beauté n'a pas d'âge. Mmh. Bon, très bien, très bien. Mais en même temps, vous avez une sorte de stigmatisation très forte, en particulier dans le milieu du travail, sur la situation de seniors. Et ça donne une contradiction aussi concernant la retraite. Continuez, oui, mais vous n'êtes pas accepté.
Oui, continuez, vous n'êtes pas accepté. Je voudrais juste revenir sur cette notion de corps vieillissant, Jean Vigarello. Est-ce qu'on le cache, ce corps vieillissant ?
Bah écoutez, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, on a évidemment tendance à le cacher. Mais je pense que le corps vieillissant, il entraîne deux choses. D'un côté, indiscutablement dans nos sociétés, on vieillit plus longtemps et on vieillit dans de meilleures conditions. Vous savez, la durée de vie, c'est considérable dans la différence. 30 ans au 17e, 30 ans. 50 ans à 1900, plus de 80 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait un bond considérable au 20e siècle. Et en même temps, il y a aussi le fait d'être mieux en forme malgré l'âge. Bon, ça, moi, ça me paraît très important. Et ça entraîne quoi ? Ça entraîne le fait que très souvent, vous vivez sur un mode hypochondriaque. C'est-à-dire que vous vous attendez toujours que surgisse, voyez ?
Le petit problème.
La difficulté, le problème.
Oui. Et alors, vous qui aimez tant la peinture, est-ce qu'on représente le corps vieillissant dans la peinture ?
On le représente, mais il n'est pas très présent, vous avez raison. On le représente. Vous avez quand même, par exemple, moi je trouve très beau les caricatures de Léonard de Vinci, qui s'attachent à la manière dont on peut montrer les rides, le nez qui se recourbe. Les peintres sont quand même très attentifs. Mais c'est vrai qu'ils ne privilégient pas, parce qu'il y a au fond la tentative de toujours présenter l'idéal, vous voyez, dans les proportions, dans l'harmonie, etc. Donc ils ne privilégient pas. Néanmoins, ils sont attentifs.
Ouais, et dans la représentation des puissants, on est d'accord qu'on ne les représente pas de façon vieillissante.
Très intéressant, Louis XIV.
Oui, très intéressant. Je pense à Louis XIV en
Je pense au livre de Stanis Pérez, qui est un très beau livre qui montre la santé de Louis XIV. Et il montre qu'à partir de 40 ans, cette santé décline de manière absolument drastique. Mais en même temps, il n'est pas représenté ainsi sur les images. Et par exemple, son profil qui s'est complètement transformé n'est absolument pas transformé sur les pièces de monnaie. Vous voyez, ça c'est quand même très intéressant.
Alexia Soyeux, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais dire sur l'espérance de vie qui augmente dans nos sociétés, l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne parce que les conditions de travail
très important, bien sûr.
Sont quand même extrêmement difficiles. On est aussi dans un contexte, tout le monde le sait, de d'effondrement climatique qui fait qu'on a des événements climatiques extrêmes, des vagues de chaleur, etc., qui vont s'amplifier et qui vont encore accentuer les conditions de travail difficiles, les conditions de vie. Et je voulais dire quand même aussi que, bien sûr, vieillir, c'est évidemment quand même un privilège, à la fois dans notre société française, parce que à l'heure où on parle aussi de la loi du plomb, il y a beaucoup de gens, de personnes jeunes, de femmes notamment, qui sont touchées par des cancers. Et bien sûr, l'espérance de vie, elle n'est pas la même en France ou dans des pays en guerre.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
Je trouve que le gris te vieillit. C'est... Non, tu trouves que le gris te vieillit toi? Parce que si on est amis et que moi j'ai cet âge, alors tu ne peux plus te faire passer pour ce que t'es pas.
Mais je ne me fais pas passer pour quoi que ce soit. J'assume mes 55 ans.
Attends, tu veux une médaille?
Ah oui.
Et quand j'aurai 55 ans, dans 10 ans, je voudrais une médaille moi aussi.
Tu es jolie avec les cheveux gris, mais ton roux me manque. Charlotte, je vais faire un master en droit humanitaire pour compléter mon diplôme d'avocate. Tout ça, je l'espère, dans le but de pouvoir défendre les femmes qui en ont besoin. Je crois que c'est pas la peine d'être une rouquine sexy pour faire ça. Je veux dire, on ne peut pas être et avoir été.
Extrait de la série And Just Like That, suite de Sex and the City avec le même casting. Nous évoquons le fait de vieillir dans Grand Bien vous fasse ce matin avec les autrices Alexia Soyeux, Fiona Schmidt et avec l'historien Georges Vigarello. Fiona, c'est extrêmement intéressant de voir comment la culture et notamment la pop culture représente la vieillesse. Alors on les hommes façon Gabin et Marlon Brando qui représentent l'autorité pendant que la vieille femme, elle, c'est la sorcière, voire la mort, hein, parce que souvent la mort c'est une vieille femme.
Oui, absolument. Notamment en art, on n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est les
oui, oui. Hein,
ça en dit long quand même sur la représentation qu'on a de la vieillesse. Vous citez notamment l'actrice Carrie Fisher dans votre livre, qui dit « Les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes, ils sont seulement autorisés à vieillir. »
Exactement.
Et vous avez l'impression que ça va mieux quand même?
Alors, c'est la question qu'on m'a le plus posée, parce qu'on essaye de forcer mon optimisme. et là, j'ai envie de dire que oui, effectivement, les choses progressent, mais comment progressent-elles? C'est-à-dire qu'effectivement, on voit un petit peu plus de femmes, de plus de 50 ans, ce qui est déjà rien que le fait, cette catégorie femme de plus de 50 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on a une espérance de vie de 85 ans. Entre une femme de plus de 50 ans et une femme de 85 ans, il n'y a quand même pas beaucoup de différence. C'est quand même, encore une fois, une façon de nous déshumaniser, bref. Mais donc, on voit davantage de femmes de plus de 50 ans à l'écran. Néanmoins, les femmes de plus de 50 ans à l'écran, elles sont quand même trois fois moins nombreuses statistiquement que les hommes du même âge à l'écran, tout métier confondu. Et ensuite, qui voit-on à l'écran? Qui sont ces femmes de 50 ans que l'on voit?
Demi Moore,
Nicole Kidman. Donc on parlait de Sex and the City et de And Just Like That. Je rappelle quand même qu'au moment de la sortie de And Just Like That, les actrices donc qui jouent, qui interprètent, donc c'est Cynthia Nixon qui interprète Sarah Jessica Parker, ont été stigmatisées parce qu'elles étaient vieilles, donc parce qu'elles refusaient de faire du Botox et de voilà. Tandis que Charlotte, dont Christine Davis, l'actrice Christine Davis, a elle été critiquée parce que justement elle avait eu manifestement des travaux sur le visage. Donc, bref, quelle que soit la manière dont vieillissent les femmes, vieillir les décrédibilise finalement.
Ouais. Oui, donc... alors je sais qu'on partage la même passion pour une série que j'adore qui s'appelle Grace and Frankie avec Jane Fonda et Lily Tomlin. Voilà, on les adore toutes les deux.
On l'adore.
Il y a aussi eu, je pense à Gillian Anderson dans Sex Education ou même Philippine Le Roi-Beaulieu dans Emily in Paris. Mais c'est fou parce que je me suis dit, mais elles sont blanches, elles sont minces.
Elles sont belles, elles sont élégantes.
Elles sont CSP+. Voilà.
C'est-à-dire elles sont hétéros.
Voilà, et la femme ménopausée avec
elles sont valides.
Kilos, on les voit pas trop. En fait.
Ah non, voilà.
Il y a encore du boulot.
C'est ça. En matière d'inclusivité concernant les personnes perçues comme étant âgées, oui, il y a un boulot de dingue. C'est-à-dire que, par ailleurs, ce sont toujours des femmes qui cochent toutes les cases du bingo de la féminité valorisée que l'on voit à l'écran. Oui. Voilà, donc il y a encore beaucoup
de boulot à faire. Progrès.
Donc ça progresse, mais là aussi, quand on parle des cheveux gris d'Andy McDowell, c'est toujours Andy McDowell qui est par ailleurs mais sublissime, et puis c'est toujours le même exemple qu'on cite.
De toute façon, dès qu'on arrive à ne citer que quelques exemples sur les deux doigts de notre main, on pense qu'il y a un problème quand même.
C'est exactement ça.
Je voudrais qu'on donne la parole à Francine qui vient de nous appeler de Sarreguemines. Bonjour Francine.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir appelé au standard de France Inter. Est-ce que je peux dire votre âge, Francine?
Mais absolument.
Vous avez 76 ans, c'est ça?
Oui. Donc je suis loin de quadraquinca. Et du fait d'avoir un peu de kilomètres au compteur, ça aide un peu à prendre un petit peu de distance. Et puis peut-être aussi à m'être moins obsédée par les aspects corporels de la vieillesse dont vous parlez beaucoup. Donc si je peux vous donner trois petites pistes...
Allez-y, on vous écoute.
Pour arriver à oublier un petit peu tout ce qui se passe dans le corps, pas forcément l'oublier, mais il y a beaucoup de vulnérabilités qui ne font que s'accroître. Moi, je suis non seulement vieille, mais pauvre, et j'ai des handicaps invisibles qui cassent beaucoup la sociabilité. Mais tout ce qui est vulnérabilité, quelle qu'elle soit... faut pas les oublier, faut pas chercher à les dépasser, il faut juste arriver à composer avec, parce que c'est ça qu'il faut arriver à faire, composer avec et avec beaucoup d'humilité. Et c'est la première chose peut-être à cultiver bien avant quadraquinca et en particulier par ces messieurs, il faut bien le dire, mais nous aussi, hein, nous aussi. La deuxième chose, c'est d'arriver à rester toujours aux aguets. Oui. Parce que moi, je peux pas dire que je sois une vieille joyeuse, mais je m'efforce d'être une vieille vivante.
Vous avez la curiosité, c'est ça?
C'est avoir envie. Oui. Et rester aux aguets de tout ce qu'on va pouvoir cueillir dans la journée, par exemple. Oui. Et partager. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, la dernière, qui est un petit peu en lien avec votre émission d'hier, très intéressante aussi, c'est tout ce qui nous met en colère, et moi je suis transpercée par plein de choses dès que je lis un article ou que j'écoute les infos, ben, c'est arriver à transformer notre colère en indignation.
Ouais. Je comprends très bien. Merci. Mais merci infiniment. Vous résumez parfaitement, je crois, les raisons de vieillir et de vieillir avec un immense sourire. Merci beaucoup, Francine, pour votre message et pour votre appel. Fiona Schmidt, je voudrais vous citer parce que vous dites « Je vis une colocation infiniment plus sereine et joyeuse avec moi-même aujourd'hui. Et la plupart des femmes de mon entourage sont comme moi, quel que soit leur âge. Elles sont plus épanouies, ancrées elles-mêmes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. » En fait, vous avez compris la place que vous cherchiez, mais là, cette place intérieure et pas cette place extérieure.
J'ai surtout réalisé que la place que j'étais censée occuper, elle était mouvante. Elle n'était pas une case que je pouvais avoir ou que c'était une que je pouvais avoir que j'étais plusieurs que j'avais plusieurs places au fur et à mesure de ma vie, que je pouvais avoir plusieurs places en même temps et puis des places différentes au fur et à mesure de mon existence et de mes choix et de que rien n'était figé en fait. Une place c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de soi plutôt que à l'extérieur.
Et je vous cite encore parce que vous dites l'avancée en âge ne nous diminue pas, bien au contraire, elle nous augmente. Elle nous apprend à aimer mieux, à penser mieux, à faire mieux, à vivre mieux, à être mieux. Donc j'ai supposé que vous étiez joyeuse et heureuse. Jean-Louis Garrido, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces mots ?
Oui, absolument. Mais je pense que ce qui me frappe, si vous voulez, dans tout ce que nous disons, c'est quand même une avancée du féminisme. Mmh. Et qui entraîne deux choses. La première, c'est évidemment la montée d'un virilisme qui, par certains côtés, est tragique. Et la seconde, on l'oublie, c'est que plus ce féminisme avance, plus la distance par rapport à l'épanouissement devient exaspérante. Et donc, on sent des révoltes encore plus fortes, parce que précisément, le but n'est pas très loin. Ouais. Et ça me frappe beaucoup.
Alexa Soyeux.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Georges, et notamment dans la période de la quarantaine, enfin cette fameuse crise avec plein de guillemets, c'est comme une occasion de remise en question, de doute, de lassitude dans sa vie quotidienne. Et pour les femmes, ce que j'ai pu observer et ce que j'ai vécu aussi, il y a une forme de lassitude dans la distance entre nos valeurs et nos convictions et le quotidien de ce qu'on vit en termes de charge mentale, de charge émotionnelle, d'une forme de pessimisme dans les relations hétéros. On avance, on progresse et c'est peut-être l'occasion, cette période de la quarantaine, de faire des choix pour devenir la personne qu'on a envie d'être pour le reste de notre vie.
On a reçu des messages magnifiques de nos auditeurs et auditrices. Permettez-moi d'en lire quelques-uns. Blanche qui nous dit « À 42 ans, j'ai franchi le cap, accepté mes cheveux blancs. Ben, vous savez quoi ? Je ne m'étais pas sentie aussi jeune depuis un bon bout de temps et j'ai retrouvé mon mojo en abandonnant l'esclavagisme des colorations. Carole nous dit « J'ai 68 ans et face à vos invités bien jeunes, précise-t-elle, j'affirme que hormis un peu moins de force dans l'effort, je me sens comme une jeune fille très forte de son expérience. » Et Philippe nous dit « J'ai 67 ans, en retraite depuis bientôt 4 ans. Et bien pour vieillir joyeusement, je me suis dit que la retraite était une super opportunité qui m'était offerte. Je me suis mis à écrire un livre, puis j'ai fondé ma micro-entreprise. Vieillir est aussi une opportunité, celle d'utiliser son expérience et d'avoir du temps. Youpi !» nous rajoute-t-il. Voilà. Et Christine nous dit quand même, je voudrais vous lire ce message parce que c'est intéressant. Elle nous dit « Paraître jeune peut susciter la jalousie, envoyer un signal d'inexpérience, de vulnérabilité, d'incompétence, et je me suis souvent heurtée à un manque de respect et de crédibilité. Avoir passé le cap de la cinquantaine me procure le détachement et l'assurance qui m'ont manqué jusque-là. » Donc on voit la difficulté qu'il y a à jongler avec ces années. Georges Garrido, pardon, Fiona,
je voulais juste dire que l'âgisme, c'est l'ensemble,
pour les jeunes.
Exactement, c'est l'ensemble des discriminations qui sont fondées sur l'âge, qu'on soit perçu comme étant trop vieux ou trop jeune.
Ouais.
Bien sûr. Et là aussi, les femmes sont évidemment les subissent davantage que que les hommes.
Mais dans le livre, vous dites un truc très drôle, c'est que vous dites il y a des ponts entre trop jeunes ou trop vieux. Ils sont trop lents, ils se mettent pas à la page.
Ils sont pas autonomes.
Je vous regarde, Georges Vigarello, parce qu'en fait, vous rentrez pas du tout dans cette catégorie-là.
Non, mais les préjugés sur les vieux et les jeunes.
Nous sommes dans des sociétés où la mobilité, la rapidité, la vitesse sont absolument fondamentales. Ouais. Et ça privilégie les jeunes. En particulier, quand on prend les instruments d'aujourd'hui, l'informatique, etc., c'est clair que les jeunes sont plus adaptés ou s'adaptent plus facilement que les vieux. Et la grande stigmatisation, me paraît être aujourd'hui, celle de la lenteur. Voyez, c'est la lenteur qu'on retrouve d'ailleurs dans les corps. Les corps un peu trop épais sont des corps lents, donc ils sont difficilement à supporter. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, contrairement à ce que l'on croit, c'est pas seulement de l'esthétique, mais c'est aussi pour ça qu'il y a une tendance à amincir de plus en plus les corps pour qu'ils soient précisément mobiles et qu'ils soient susceptibles de changements.
Au moment où on dit qu'il faut gagner en lenteur et un peu décélérer, hein, c'est quand même tout à fait paradoxal.
Voilà une contradiction supplémentaire.
Exactement. Une injonction contradictoire.
Complètement. Alexa Soyeux.
Oui, pour réagir à ce que disait un auditeur ou une auditrice sur les bienfaits de la retraite, c'est évidemment tout ce temps retrouvé, ce temps pour lequel on a cotisé en fait toute notre vie, c'est aussi ce pourquoi il faut se battre collectivement pour qu'on ait encore le droit d'avoir ces années précieuses de vie hors du travail. Et c'est ce qu'on est en train de perdre petit à petit, et c'est assez terrifiant, mais il y a des grosses mobilisations sur ce sujet.
Oui, investir collectivement aussi, c'est votre grand message aussi dans votre livre.
Oh putain, c'est quoi cet âge de malade ? Mais 50 ans, mais c'est merveilleux.
Grand bien vous fasse.
Mais 50 ans, mais c'est l'adolescence avec une carte bleue.
Sur France Inter.
C'était un sourire avec Florence Foresti. Chers invités, nous allons nous séparer dans quelques minutes. Mais avant, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une interview de Monica Bellucci. C'était dans l'émission C'est à vous sur France 5. C'était déjà en 2015.
Bien sûr, des vieillir, c'est pas... Non, comment on peut dire, c'est pas la chose la plus belle au monde. Mais je crois qu'il faut faire avec. Et alors que moi, j'ai envie de vivre très longtemps. Parce que j'ai adoré mes grand-mères, j'ai trouvé que c'était des femmes magnifiques. Et que, voilà, du coup, quand je voyais leur vieillesse, je voyais pas ça comme un défaut du tout. Et du coup, je me dis que savoir vieillir, c'est aussi une belle aventure.
Moi, j'aime bien ces mots de Monica Bellucci qui regarde sa grand-mère, ses grand-mères, et qui s'imagine dans ces corps qu'elle voit, qu'ils ont grandi avec.
Elle a eu la chance d'avoir Elle a eu la chance d'avoir une représentation positive de la vieillesse, qui n'est pas toujours le cas dans toutes les familles.
On est d'accord.
Et dans partout, quoi.
Enfin, on est d'accord. Georges Vigarello, vous avez lu le livre d'Alexia Soyeux et le livre de Fionnuala Schmidt. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Écoutez, je les ai lus avec attention et je trouve qu'ils sont passionnants parce que l'un et l'autre, pour des raisons différentes d'ailleurs, l'un et l'autre sont des actes de libération. Et sont des actes très contemporains. Libération différente, dans le cas de Fiona, c'est plutôt une libération à l'égard du travail, les pressions trop fortes, le fait de ne pas disposer de son temps, etc. Dans le cas d'Alexia, me semble-t-il, je ne veux pas me tromper, c'est plutôt la difficulté de subir la présence masculine, la contrainte du couple, le fait de se retrouver enfoncé dans une situation traditionnelle, etc. Mais dans les deux cas, ce sont des livres de libération. Et du coup, ce sont des livres particulièrement actuels.
On est bien d'accord. Et alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, Fionnuala et Alexia. Est-ce que d'écrire ces livres vous ont bousculé, vous ont fait changer, Fionnuala ?
Ah mais moi ça a été life changing, comment on dit. Oui, vraiment, parce que d'abord j'ai appris énormément de choses en faisant mes recherches, et je pense que ça m'a permis de mettre à distance un certain nombre de préjugés que j'avais intériorisés, puisque évidemment j'ai des biais agistes comme absolument tout le monde, et ça m'a permis de les déconstruire et de mettre à distance certaines peurs qui étaient liées notamment à la dépendance ou le fait de me rendre compte qu'on était tous interdépendant et qu'il était important, justement, c'était une auditrice qui parlait de vulnérabilité, il était important d'embrasser sa vulnérabilité, de changer en fait le regard social sur la vulnérabilité et la dépendance, parce qu'on est tous en fait Bernard Arnault est complètement dépendant.
Exactement, mais oui, voilà. Les autres aussi. Alexia Soyeux, ça a été un grand bouleversement dans l'écriture du livre.
De bouleversements, oui. En fait, je pense que a posteriori, je me suis aperçue que probablement l'écriture du livre m'a été nécessaire pour prendre des décisions difficiles, voilà, de la séparation avec le papa de ma fille, avec qui, par ailleurs, voilà, que j'aime toujours comme personne. Mais c'était difficile et je pense que j'ai été un peu peut-être obligée d'arriver au bout du livre pour prendre cette décision. Mais en tout cas, les messages que je voulais faire passer, c'était aussi des messages, comme on l'a dit, d'engagement, de le fait que c'est dans le collectif et dans le lien et dans la présence au monde qu'on peut trouver une forme de joie.
Oui, vous avez un très très beau passage sur l'amitié et la nécessité de valoriser ce sentiment qu'est l'amitié dans notre société. Vous savez, chaque jour, on termine l'émission avec vos coups de cœur, chers invités, qui vont nous permettre de poursuivre la réflexion. Alexia Soyeux, je vous continue à vous laisser la parole. Vous avez pensé à quelque chose ?
Oui, alors j'ai pensé à une série américaine qui s'appelle Somebody Somewhere, qui est une série qui a été diffusée récemment, qui parle d'une femme d'une petite cinquantaine d'années qui est une personne grosse, pauvre, qui revient dans sa ville natale au fin fond du Kansas après la mort de sa sœur et qui trouve dans cette petite ville auprès d'une communauté une chorale queer qui retrouve du sens et dans ça va collectif. Complètement à l'encontre des injonctions à se réinventer, à se transcender, etc. C'est un petit bonbon cette série, je trouve.
On est bien d'accord, j'ai adoré cette série. Georges Vigarello.
Écoutez, moi c'est simplement l'idée d'accepter son âge et en même temps d'entretenir coûte que coûte des projets et de regarder devant.
Ah ouais, et je sais que vous en avez déjà des projets parce que vous m'avez dit dans l'oreille sur quoi vous travaillez en ce moment. Voilà, bon bah j'ai l'âge que j'ai et je bafouille à la fin de l'émission, que voulez-vous. Je fatigue aussi. Merci infiniment à tous les trois pour votre intelligence et vos sourires. Je renvoie nos auditeurs et auditrices à la lecture de vos ouvrages. Alexia Soyeux, Passer l'âge, la crise de la quarantaine entre mythe et réalité, est paru aux éditions Hors d'atteinte. Fiona Schmidt, Vieille peau, Les femmes, leur corps, leur âge, c'est publié chez Belfond. C'est à la fois très intelligent et très drôle. J'ai beaucoup ri et je vous en remercie. Merci. Quant à vous, Georges Vigarello, on lit tout et notamment Une histoire des lointains qui vient de sortir en poche chez Pocket. Elles sont jeunes, enfin en tout cas plus jeunes que moi. À la réalisation, il y avait Valérie Ayestaraï, Jessica Baggi, Anna Massardier, Noëlla Filliol et Elina Garcia ont préparé avec brio cette émission. Et en régie ce matin, il y avait Rémi Sitiaga et Corentin Rouchy.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.